Je lis tout de suite, bien que je crois que ça viendra plus tard, vous avez rien. Pour justifier les sept sacrements, peut-on raisonner ainsi? On n'en est pas encore là, hein? N'oubliez pas. Nous allons progressivement et lentement pour des questions délicates. Le Christ a institué l'Eucharistie et le sacerdoce. Et cela suffit pour que les sacrements soient des gestes voulus par lui. Puis, étant donné l'efficacité proprement divine d'autres gestes qui font partie de la vie chrétienne, l'Église a considéré qu'eux aussi ne pouvaient être que des sacrements, le baptême, car seule l'intervention directe de Dieu peut donner la vie divine, le pardon des péchés, car qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul, le mariage, etc. Le mariage, car ce que Dieu a uni, ne le séparerait pas. On verra ça. Hein? Ce que vous devancez, c'est bien de devancer, j'aime bien de devancer, mais on n'en est pas encore là. Ce que je voudrais avec vous, nous allons lentement, puisque ce n'est pas si commode que ça, et je voudrais que vous voyez bien cette démarche, le passage des gestes du Christ, parce que c'est là où on le voit le mieux. Hein? La scène, c'est très net. Jésus est législateur et Jésus donne un sens nouveau à la Pâque ancienne. Jésus donne un sens nouveau à la Pâque ancienne. Et pour bien nous le faire comprendre, l'évangile de Saint Jean montre le lavement des pieds. Pour bien montrer qu'il y a comme une espèce de rupture. Et en même temps, continuité. Il y a une rupture, le lavement des pieds, qui montre qu'il y a deux choses différentes et qu'il y a un pardon particulier de Dieu. Alors, est-ce que le lavement des pieds est le signe du sacrement de pénitence? Nous y reviendrons. Mais c'est un signe qui est donné, je crois, avant tout pour bien faire comprendre le lien et la séparation des deux Pâques. Il y en a quelque chose de spécial. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus l'a agi en législateur, en instituant l'Eucharistie. Les paroles du Christ et les gestes du Christ pour l'institution de l'Eucharistie demeurent. L'Église n'a jamais modifié les paroles de la consécration. Et l'Église n'a jamais modifié la matière du sacrement. Elle a subi des influences multiples, vous savez bien. Tous ceux qui vont en Chine, tous ceux qui vont dans l'Inde, tous ceux qui vont dire, il faudrait modifier la matière du sacrement. Et ça revient aujourd'hui, du reste, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est normal. C'est des choses qui reviennent. Comment, quand on est dans le pays de l'Inde, quand on est dans le pays en Chine, ça ne signifie rien de prendre du pain. Quand on est dans un pays où il n'y a pas de vin, ben c'est la bière, hein. Ça ne signifie rien de prendre du vin. Alors on devrait prendre notre symbolisme. Et ainsi de suite. Du vin de palme. On devrait faire ça. Alors, bon, ça revient régulièrement, ces choses-là. C'est très très curieux. Hein. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Des espèces de raz-de-marée qui reviennent. L'Église a maintenu, contre vent et marée, l'Église a maintenu une fidélité aux paroles et aux gestes. Le geste impliquant la matière, le pain et le vin. Et voyez, l'Église l'a lié à Melchisédek. Le pain et le vin. Et le liant à Melchisédek, vous l'avez montré comme quelque chose qui est au-delà du temps et au-delà des lieux. Je crois que c'est un peu ça, parce que le sacre, le Melchisédek représente un sacerdoce, nous aurons l'occasion d'y revenir, Melchisédek représentant un sacerdoce qui est au-delà du peuple d'Israël. Quelque chose qui est au-delà de l'alliance avec Abraham. Et Abraham s'y soumet. Alors Melchisédek offre le pain et le vin. Donc c'est pour donner au pain et au vin une valeur symbolique particulièrement forte. Alors, on se posera la question, parce qu'il faut se poser toujours la question. Est-ce que l'Église pourrait changer? Ou est-ce que l'Église ne change pas parce qu'elle manque de créativité, d'invention, et puis qu'elle est dans des ornières? C'est pas commode, il faut voir la différence entre la tradition et les ornières. Vous savez bien, c'est toujours très très difficile. Les traditionnalistes peuvent des gens qui aiment d'être dans des ornières, parce qu'il n'y a pas de problème qui se pose. On a toujours fait ça, on doit toujours faire ça. On en a bavé, ils en baveront. Alors ça continue, vous voyez. Bon, ça continue de faire l'ornière. Et la finalité n'est plus respectée. Alors c'est toujours très difficile de voir la différence. On se posera la question, il faut y réfléchir, parce que ce sont des questions qu'on vous posera. Il ne s'agit pas de répondre bêtement, il s'agit de répondre avec intelligence pour aider. Pour aider parce que pour certains c'est un scandale, c'est un vrai scandale. Alors il faut comprendre, et il faut y répondre. Ce qui est sûr, hein, c'est un fait ça. On voit dans les Actes des Apôtres, on voit Saint Paul, l'Épître aux Corinthiens, on montre bien le geste du Christ qui demeure. Et la parole. L'Église a progressivement inventé les canons de la messe. Et progressivement, l'Église a mis à côté de la consécration toute une préparation à la fois de la parole et aussi un aspect de pénitence. Au fond, la messe de Saint Pie V, la messe vénérable de Saint Pie V, la messe encore plus vénérable des Dominicains, n'est-ce pas, et la messe encore plus vénérable de Lyonnais, de Lyon et ambroisienne, qui sont plus vénérables que la messe de Saint Pie V, puisque Saint Pie V c'est incliné devant ses messes. Il les a laissées. Il ne faut pas l'oublier. C'est un très bon argument contre les gens qui sont un peu univoques. N'est-ce pas? Alors, je dis, mais écoutez, vous êtes plus catholique que Pie V. Et Pie V lui-même vous dirait, mais non, il n'y a pas qu'une seule liturgie de la messe. Il y en a plusieurs. Et moi-même, je suis incliné devant ces liturgies. La liturgie de Saint Bruno, des Chartreux, où il y a aussi des variantes. Et Saint Pie V a respecté, n'est-ce pas, toutes les liturgies qui avaient plus de 200 ans. Ce qui est très intéressant, du reste. C'est ça que la liturgie de Saint Pie V est vénérable. Et elle reste vénérable. Alors, on doit obéir aux disciplines de l'Église, mais on doit comprendre qu'il y a quelque chose de vénérable dans une liturgie qui a duré plus de 200 ans dans l'Église. Parce que ça prouve qu'il y a là quelque chose de grand, de beau, et qu'on doit regarder, attentivement. Donc, il faut saisir comment l'Église, de fait, a modifié, ou plus exactement, inventé, disons, carrément, c'est la créativité de l'Église au point de vue liturgique. Elle a créé progressivement toute une liturgie autour des paroles de Jésus. L'Église n'a pas repris matériellement ce que Jésus avait fait. Si l'Église avait pris matériellement ce que Jésus avait fait, l'Église aurait maintenu la Pâque ancienne, aurait maintenu le lavement des pieds, et aurait donné après l'institution de l'Eucharistie. L'Église n'a pas maintenu la Pâque ancienne, très très vite, elle a laissé tomber la Pâque ancienne. Le lavement des pieds, elle ne l'a pas maintenu non plus, avant la messe. Et elle a mis une liturgie. Créativité de l'Église. Créativité de l'épouse. Hein. Ce que je vous avais dit, il faut bien comprendre cela. Parce que ça me semble tellement important pour la compréhension des sacrements. Les sacrements de l'Église. Alors, je vous avais posé la question, et il faut tout le temps y revenir. Comment se fait-il, quand il s'agit de la parole, l'Église garde la parole et l'Église invente la théologie. Faites le parallélisme entre les deux. C'est intéressant parce qu'il y a une petite analogie intéressante à saisir et qu'on ne voit pas très souvent. du moins, moi je ne l'ai pas vu souvent. Alors, si vous l'avez vu, dites-moi si vous l'avez déjà rencontré dans un livre ou dans un show, parce que c'est quand même intéressant de voir ça. Donc, le voir l'Église en tant qu'épouse, hein, l'Église bonne terre, elle est la bonne terre, l'Église. Et Marie avant. L'Église est commandée par Marie. L'Église à bonne terre garde la parole. Et en tant qu'épouse, ajoute la théologie. Mais voyez comment la théologie s'enracine dans la parole. Et c'est pour ça que tous les deux forment l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de l'Église. L'enseignement de l'Église, c'est la théologie. C'est ce qui vient s'ajouter à la parole. Ça, c'est l'enseignement de l'Église. Mais l'enseignement de l'Église s'enracine dans la révélation. Et c'est pour ça que vous vous souvenez, au moins ceux qui l'ont vu, la question première de la somme fait un lien si fort entre théologie et révélation. Tellement fort que certains disent, et le père Fatfort dit un peu ça, que de fait, ce n'est pas du tout la structure de la théologie. Alors que je crois que c'est la structure de la théologie, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que c'est vraiment la structure. Saint Thomas dit la structure de la théologie s'enracine dans la parole de Dieu et dans la révélation. Et la nécessité de la théologie, c'est la même que la nécessité de la révélation. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est la bonne terre qui reçoit la parole et qui fait que la parole progresse. Il y a un apport. On ajoute. Autrement, elle ne serait pas l'épouse. Elle ne serait que l'enfant. Elle ne serait que l'enfant parce qu'elle n'ajouterait rien. Alors l'épouse ajoute. La bonne terre fait que la parole est reçue comme une semence. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. La parole divine, c'est une semence par rapport à la théologie. La théologie n'est pas une semence. C'est des conclusions. C'est pour ça qu'être professeur de théologie, vous voyez, il faut toujours dépasser le point de vue de la communication. La communication des conclusions. Il faut revenir à l'aspect de la parole qui est une semence. Et la théologie se renouvelle en revenant toujours à la parole, en revenant toujours à sa source. Mais la source et les faits sont très très liés. Hein. C'est très très lié. C'est vraiment l'œuvre commune de l'Église et de l'Esprit Saint. C'est l'œuvre commune de l'Église et de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, c'est la même nécessité. À ce point de vue-là, c'est très grand, parce que ça fait comprendre que la théologie s'enracine très profondément dans la parole. Et cependant, on maintient une distinction très nette en disant toujours parole de Dieu et enseignement de l'Église. Et quand il s'agit de structurer la théologie, dans sa structure la plus profonde, elle est enracinée dans la révélation. Parallèlement à cela, nous avons l'Église, les gestes du Christ. Les gestes. Il y a la parole, les gestes du Christ. Et les gestes du Christ, l'Église les garde aussi, elle en vit, et elle nous donne les sacrements. Les sacrements, c'est la manière dont l'Église garde les gestes du Christ et les transmet. Alors, il y a du côté des sacrements, il y a toute une liturgie de l'Église qui fait qu'on dira sacrement de l'Église, les gestes du Christ et les sacrements de l'Église. Donc les sacrements sont l'analogue à la théologie. Il y a quelque chose d'analogue, hein, vous voyez bien, c'est l'apport. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté des gestes, puisque nous sommes du côté pratique, et du côté affectif, l'apport de l'épouse est beaucoup plus grand que du côté proprement spéculatif. La théologie est premièrement spéculative, parce que la parole de Dieu est premièrement un enseignement. Alors l'apport de l'épouse est beaucoup plus grand du côté affectif. C'est très beau du reste, très très beau. Parce que du côté enseignement, donc du côté de la parole, L'Église est avant tout disciple. Elle écoute, elle reçoit la parole. Elle est la bonne terre, elle la reçoit. Il y a toute la fécondité de cette parole, mais elle la reçoit. Du côté du geste, donc du côté pratique et affectif, du côté des sacrements et du côté de la liturgie, parce que les sacrements et la liturgie, ça soutient. La liturgie chrétienne, c'est une liturgie des sacrements. Bien évident. C'est la liturgie des sacrements. Alors, du côté sacrement et du côté liturgique, on peut dire que l'apport de l'Église est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand. Il transforme les gestes. Il les garde et il les transforme d'une certaine manière. Alors, c'est ça qui me semble très important du côté de l'Eucharistie. C'est que du côté de l'Eucharistie, vous avez que les gestes du Christ sont gardés intégralement. Jésus prend le pain, Jésus prend le vin, la coupe. Les paroles du Christ sont gardées. Et alors vous avez donc par l'Eucharistie le lien entre les sacrements et la parole. Et l'analogie alors devient beaucoup plus forte quand il s'agit de l'Eucharistie. Il y a l'Eucharistie, puis il y a la liturgie de l'Eucharistie. Et la liturgie de l'Eucharistie est vraiment l'analogue de la théologie qui vient s'ajouter à la parole de Dieu. La parole est gardée intégralement, et la théologie est faite pour que nous comprenions mieux la parole. C'est l'herméneutique de la parole. La liturgie, c'est, je veux dire, la théologie, c'est l'herméneutique de la parole de Dieu. Et dans cette herméneutique de la parole de Dieu, il y a tout ce qui doit aider à la théologie. Mais c'est vraiment l'interprétation de la parole pour que nous puissions communiquer plus pleinement la parole de Dieu. La théologie permet cette communication plus parfaite de la parole de Dieu, parce qu'on l'a mieux comprise. Eh bien, c'est la même chose du côté de l'Eucharistie. C'est que, de fait, l'Eucharistie, l'Église va garder, quand il s'agit de la scène, va garder les gestes du Christ, quand il s'agit de la nouvelle Pâque, va garder les gestes du Christ, va garder les paroles du Christ, et va ajouter le point de vue de la liturgie. Le canon, le point de vue de l'offertoire, ben, toutes les parties de l'Eucharistie, qui n'ont pas été inventés par le Christ et qui sont bien l'analogue de la théologie. C'est une herméneutique des gestes. Vous voyez ? Et je crois qu'on devrait faire ça. On devrait, quand il s'agit de l'Eucharistie telle qu'elle est vécue maintenant, ce serait très beau de faire ça, telle que l'Eucharistie est vécue, prendre à partir des gestes et des paroles du Christ, comprendre cette herméneutique, cette interprétation de tout ce que représente la liturgie de la messe. Toute la liturgie de l'Eucharistie, c'est interpréter les paroles et les gestes de Jésus. Comprendre le canon, la préface, l'offertoire, la partie proprement de la parole et la partie de la pénitence. Tout ça, l'herméneutique des gestes, exactement comme la théologie, c'est l'herméneutique de la parole. Et comprendre que cette herméneutique est beaucoup plus liée aux gestes et à la parole du Christ que la théologie n'est liée à la parole. Et c'est pour ça qu'on dit sacrement de l'Église. Je ne peux pas, moi-même, de mon propre gré, dire aujourd'hui, ah non, c'est un peu trop fatigant cette liturgie. Je vais simplement garder les gestes du Christ et les paroles de la consécration. Je peux faire ça du côté de la parole. Ah, c'est fatigant cette théologie. J'aime mieux regarder uniquement la parole de Dieu. C'est une semence, c'est bien plus riche, c'est bien merveilleux. Je laisse tomber la théologie. L'Église ne le fait pas communautairement, mais individuellement, elle voulait ce soin. Il y en aura qui ont beaucoup plus besoin de la théologie, d'autres beaucoup moins. Ça dépendra des spiritualités. Et l'Église les a un peu. C'est bien évident qu'elle les a un peu. Là. Vous dites, oh, moi j'aime mieux, vous savez, la théologie, je l'ai faite parce qu'il fallait le faire, mais vraiment, c'est un peu lourd, c'est un peu... J'aime mieux revenir à la parole de Dieu. C'est très bien, très bien. Ah, moi, au point de vue pratique, vous voyez, au fond... tellement plus simple, j'aime mieux rester dans l'oraison, et puis au bout d'une demi-heure d'oraison, je prends le pain et le vin, et puis je consacre directement. Oh, c'est tellement... C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus simple, c'est ça qui me touche le cœur, c'est revenir directement au geste du Christ, c'est tellement plus simple. Je peux pas. Oui. Alors je peux le faire là, de ce côté-là. Du côté de la parole, je peux le faire, je ne peux pas le faire du côté de la, du geste. C'est quand même curieux, ça. Sacrement de l'Église. L'Église va beaucoup plus loin, vous voyez, dans son apport, quand il s'agit de ça. Il faut comprendre ça, parce que ça revient, ces choses-là. Hein. Alors, si vous ne comprenez pas ça, vous n'aurez pas la réponse. Et vous ne pouvez pas donner la raison. Donc, il faut le comprendre. Avant tous ceux qui font ça dans un esprit de, voyez, plus ou moins de docilité vis-à-vis de l'Église. L'obéissance est beaucoup plus grande du côté de la liturgie et du sacrement que du côté de la parole et du côté de la théologie. L'obéissance est beaucoup plus grande. Il y a un lien beaucoup plus fort côté affectif, côté pratique affectif. Côté de l'efficacité, côté pratique, et le côté affectif. Beaucoup plus grand. L'épouse, comme épouse, apporte plus. Elle doit lier davantage. L'or, l'encens et la myrrhe, hein, c'est l'apport de l'épouse. Il faut que l'épouse apporte ça au point de vue des sacrements. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Et c'est la même chose pour la liturgie. Il y a des petites fantaisies que je peux, mais quand même, la liturgie, c'est la liturgie de l'Église. Et c'est la liturgie de l'Eucharistie. Toute la liturgie est ordonnée au sacrement de l'Eucharistie. Donc, elle est une herméneutique plus ou moins lointaine, de ce que représentent les gestes du Christ et les paroles de la consécration. Il faut toujours comprendre cela dans cette perspective de l'Église qui apporte ce point de vue-là. Donc là, quelque chose qui me semble important à réfléchir. Je ne peux pas non plus, parce que c'est aussi des tentations modernes, de dire, mais on va reprendre matériellement ce que Jésus a dit. Donc je vais commencer par la scène de l'Ancien Testament, donc la Pâque ancienne, puis le lavement des pieds, puis on pourrait dire ça, la communauté des Saint-Jean va faire ça, parce que c'est beaucoup mieux, là on revient à l'origine, on revient à la source, alors on va faire ça. Non, on ne peut pas le faire. L'Église nous demande de recevoir l'Eucharistie telle que l'Église l'a vécue, l'a inventée, l'a portée. On a une docilité plus profonde du côté des sacrements, l'Église. C'est parce que c'est l'apport de l'épouse. Il faut respecter l'apport de l'épouse qui est plus grand du côté affectif que du côté de la pensée. On comprend très bien ça. Hein? Normalement, vous savez bien, c'est la complémentarité de l'épouse et du côté du cœur, comme disent les pères de l'Église. Et saint Thomas l'a repris. Vous savez, quand il fait la comparaison entre Adam et Ève, et il dit que Dieu a pris la côte et n'a pas pris le cerveau, petite partie, hein, le cervelet, hein. Et à partir de là, il a construit la femme, ou n'a pas pris les pieds, non, il a pris la côte. Les pères de l'Église insistent là-dessus pour bien montrer que c'est le cœur. La complémentarité de la femme par rapport à l'homme, c'est le cœur. C'est pas du côté de la tête. Là, c'est très curieux que vous retrouvez ça. Si vous êtes attentif, vous voyez ça. La complémentarité de l'épouse joue un rôle beaucoup plus important du côté affectif et du côté de l'efficacité pratique que du côté de la pensée. La pensée qui a quelque chose, la complémentarité, c'est la théologie, c'est l'herméneutique de la parole de Dieu. C'est sûr. Mais c'est quand même quelque chose qui demande d'être beaucoup plus dépendant de la parole de Dieu. Tandis que du côté pratique, la liturgie, ça donne une ampleur, une grandeur. Pourquoi ? Parce que la complémentarité de l'épouse est plus forte du côté affectif que du côté de la pensée. Il y a une complémentarité plus grande. Et ça, c'est la grande tradition de l'Église. Hein, puisque le lien entre l'époux et l'épouse, c'est Dieu lui-même qui l'a prise. L'Église est l'épouse du Christ. Et l'Église est complémentaire du Christ. Et le Christ est la tête. Il est l'époux. Et donc c'est dans la lumière de ce qui nous est montré de cette manière. Alors vous pourriez prendre toutes les analogies. Hein. Je prends l'analogie de l'époux et de l'épouse, c'est la plus parlante. Je peux prendre l'analogie du temple, pierre angulaire. Je peux prendre l'analogie aussi du corps, la tête et les membres. Alors, vous prendriez ces trois analogies pour essayer de comprendre comment la complémentarité est différente du côté de la parole et du côté des gestes. Première chose à bien saisir. Deuxièmement, nous allons entrer maintenant dans ce fait que l'Église va non seulement donner une liturgie, mais l'Église va de fait, quand il s'agit des gestes du Christ et quand il s'agit des paroles du Christ, l'Église va donner une herméneutique de ses gestes et de ses paroles. Alors là, c'est la théologie, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est la théologie qui va venir au secours, en quelque sorte, pour l'interprétation de ses gestes. C'est la théologie qui intervient pour être gardienne de la signification des gestes et des paroles. Et c'est ce que nous voyons dans la signification que l'Église prend des sacrements. Il y a un enseignement de l'Église sur les sacrements. Il y a un enseignement de l'Église sur les sacrements pour que nous comprenions la portée et le sens des gestes et des paroles du Christ pour l'Eucharistie. Et c'est avant tout vis-à-vis de l'Eucharistie. On verra pour le reste, mais c'est avant tout pour l'Eucharistie. Alors, c'est ici où il faudrait regarder. Nous n'avons pas le temps de le faire. Puis, ça demanderait une grande compétence de l'histoire de l'Eucharistie. Il y a un petit livre qu'il faut lire, pas du tout pour être d'accord, hein, mais c'est comme opposé. Le livre de Charlot, vous savez, tant mieux, ça voulait l'appeler Charlot, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Comme... Alors, le livre de Charlot qui a été écrit à Angers, il n'y a pas si longtemps, et qui est très intéressant pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et qui a été montré l'histoire de l'Eucharistie, l'histoire de la liturgie de l'Eucharistie, pour montrer comment l'Église s'est emparée de l'Eucharistie sous l'emprise du pouvoir temporel de l'Empire pour unifier l'Église. Il y a quelque chose de juste, hein, faut pas l'oublier. C'est le sacrement de l'Eucharistie qui donne l'unité. Et l'Église est jalouse par rapport au sacrement de l'Eucharistie. Toujours. Toutes les hérésies, c'est autour de l'Eucharistie. On voit bien ça dans Saint Jean. Puisque c'est à partir du discours du Christ, le chapitre 6, au milieu de vous, il y a un démon. Donc c'est l'Eucharistie qui fait à l'intérieur de l'Église certaines divisions. À cause des hommes, hein, l'Eucharistie a un but d'unité. C'est le sacrement de l'unité. Mais de fait, c'est le sacrement aussi qui va provoquer le signe en but à la contradiction. Et c'est l'Eucharistie qui va être un signe en but à la contradiction. Alors ça, c'est aussi très intéressant. Alors, vous voyez, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. La théologie va venir au secours de l'interprétation des gestes du Christ. Or, ceci, c'est déjà vrai dans l'Évangile, puisque vous avez le livre 6 dans Saint Jean, sur le pain de vie, qui est la théologie mystique du chapitre 13, où Jésus institue l'Eucharistie. Vous avez chapitre 13 dans Saint Jean, pour avoir les lieux, hein, c'est intéressant parce que c'est toujours intéressant de voir que déjà dans l'Écriture, vous avez les deux aspects. Vous avez dans l'Écriture, dans Saint Jean, vous avez le chapitre 6 sur le pain de vie, qui est la théologie de l'Eucharistie, la première théologie. La théologie fondamentale sur le mystère de l'Eucharistie, c'est le chapitre 6 dans Saint Jean. Une théologie prophétique. C'est une véritable théologie, et c'est la théologie du pain de vie. Eh bien, au chapitre 13, Jésus institue l'Eucharistie. Donc les deux sont séparés. Si les deux sont séparés, c'est pour bien nous faire comprendre que lorsqu'il s'agit du mystère de l'Eucharistie, d'une certaine manière, toute la théologie est ordonnée à l'Eucharistie. Et toute la liturgie est ordonnée à l'Eucharistie. Je crois qu'on peut le dire, ça. Ce qui fait comprendre l'importance du mystère de l'Eucharistie dans le mystère de l'Église. Ce qu'il y a de plus précieux dans la théologie, c'est le traité de l'Eucharistie. Ce qu'il y a de plus précieux dans l'Évangile de Saint Jean, comprenons bien, chapitre 6, le mystère du banni. C'est vrai, c'est un des sommets, on ne peut pas nier. C'est un des sommets. Par le pain, je remonte jusqu'au Père. Par le pain, je découvre l'Eucharistie. Donc, mystère, théologie du pain de vie. Et cette théologie du pain de vie va se développer dans l'Église sur la théologie de l'Eucharistie. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Pour nous renouveler dans la théologie de l'Eucharistie, faisons une théologie du chapitre 6. Pour nous renouveler dans le sacrement et le geste du Christ, reprenons le chapitre 13. Vous voyez, les deux sources, les deux aspects. Et il y a bien deux sources. Une source dans la lumière et l'autre source pratique. La manière dont le Christ institue l'Eucharistie. Bon, dans l'Église, vous trouvez exactement la même chose. Vous retrouvez l'aspect institutionnel pour les sacrements et la liturgie du sacrement. Et puis vous voyez dans les moments de crise l'Église qui se sert de la théologie d'un enseignement pour nous donner un enseignement sur l'Eucharistie. Alors il y aurait là deux choses à faire, hein, que nous ne faisons pas, mais il faut quand même le signaler. Il y aurait l'histoire de la liturgie de l'Eucharistie. C'est du reste assez court. On ne va pas tellement loin. Je vous renvoie à Charlot. Parce que là, lui, c'est uniquement l'histoire. Il le donne avec son interprétation à lui. Comme c'est très très gros, il n'y a pas de danger de tomber dans le panneau. N'est-ce pas ? Mais c'est très gros. C'est à lire. Quand vous êtes un peu fatigué. Quoi. Et puis, deuxièmement, il y a la théologie de l'Eucharistie. La théologie de l'Eucharistie, elle s'est développée progressivement en face surtout de certaines erreurs. On voit bien la théologie de l'Eucharistie dans saint Thomas. Alors il faudrait faire ici la théologie de l'Eucharistie dans saint Thomas. Parce que je crois que nous sommes en présence d'un sommet. Je crois que toute la théologie de saint Thomas prend toute sa signification dans le traité de l'Eucharistie. On retrouve une nouvelle théologie de l'Eucharistie chez Descartes. Les pères jésuites ont demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie de l'Eucharistie. Il fallait entendre Gouillet dire ça. J'ai entendu quand il exposait, parce qu'il était quand même un des bons spécialistes de Descartes, il s'amusait beaucoup là. Alors, il s'amusait beaucoup de dire oui. On a demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie, et on l'a fait par l'Eucharistie. Et alors, c'est resté, hein, la théologie de Descartes sur l'Eucharistie, vous voyez ce que c'est, hein. C'est, ça ne va pas très loin, mais c'est très dangereux. Parce qu'évidemment, c'est tout à fait autre chose. Et alors, pour nous, il y a l'enseignement du Concile de Trente. Le Concile de Trente a repris l'enseignement de saint Thomas. J'ai dit bien repris l'enseignement de saint Thomas sur l'Eucharistie pour donner à cet enseignement un caractère nouveau. Saint Thomas est un théologien, le Concile de Trente, c'est l'enseignement direct de l'Église. Alors, un théologien, on peut toujours discuter, parce que c'est une herméneutique particulière en vue de mieux connaître la parole de Dieu. Tandis quand il s'agit du Concile de Trente, il s'agit d'un moment important, d'un tournant important dans l'Église, pour préciser ce que représente l'Eucharistie face à la réforme. La réforme ne voulant plus regarder dans l'Eucharistie le point de vue du sacrifice et ne voulant plus regarder dans l'Eucharistie la présence réelle, le mystère de la transsubstantiation. Luther, considérant qu'il y a bien présence réelle, mais pas présence objective. Luther, ne considérant pas qu'il y a sacerdoce, Et donc, c'est au cours de l'Eucharistie, la communauté qui fait qu'il y a transformation, transformation, qu'il y a présence réelle à travers les espèces de pain et de vin, du corps et du sang du Christ. Alors, face à la théorie, aux opinions, disons, aux opinions de Luther, le Concile de Trente va préciser certains aspects que je crois qu'il est nécessaire pour nous de nous les rappeler. Et nous voyons bien là, voyez, comment la théologie et l'enseignement de l'Église vient sauvegarder la signification plénière des gestes de Jésus. Étant donné que l'Eucharistie a toujours été considérée par l'Église comme la prunelle de son œuvre. Si vous touchez à l'Eucharistie, immédiatement vous touchez à tout l'équilibre de l'Église. Et l'équilibre de l'Église dépend de ce que représente le mystère de l'Eucharistie. Parce que on touche, vous voyez, tout de suite au roc. On touche à la pierre d'angle par l'Eucharistie. Puisque c'est cela qui constitue le testament. Puisque ça constitue le testament, l'interprétation que vous donnerez à ce testament, évidemment, changera constamment, complètement la perspective de l'Église. Et c'est pour ça que l'Église est si nette. Concile de Trente, nous aurons ensuite Vatican II, nous aurons ensuite la lettre de Jean-Paul II aux évêques et aux prêtres. C'est pas un concile, c'est une lettre. C'est une lettre pleine d'affection, c'est sûr. En ces premiers temps de mon nouveau ministère dans l'Église, j'éprouve un profond besoin de m'adresser à vous tous, sans aucune exception, prêtres, diocésains et religieux, qui êtes mes frères en vertu du sacerdoce de l'ordre. Je désire avant tout exprimer ma foi en la vocation qui vous unit à vos évêques, en une communion particulière fondée sur le sacrement et le ministère et par laquelle se construit l'Église. L'Église se construit par l'Eucharistie. Donc on est à la source. Se construit l'Église, corps mystique du Christ, vers vous tous, donc qui, en vertu d'une grâce spéciale et par un don particulier de vous-même à notre Sauveur, supportez le poids du jour et la chaleur dans les tâches multiples du service sacerdotal et pastoral. Se sont tournées mes pensées, mon cœur, dès l'instant où le Christ m'a appelé à cette chair sur laquelle autrefois Saint-Pierre a dû, par sa vie et par sa mort, répondre jusqu'au bout à la demande « M'aimes-tu ? M'aimes-tu plus que ceci ?» Sans cesse je pense à vous. Et je prie pour vous, avec vous je cherche les voies de l'union spirituelle et de la collaboration, parce que en vertu du sacrement de l'ordre, que j'ai reçu moi aussi des mains de mon évêque, le métropolite de Cracovie, vous êtes mes frères. Je veux donc vous dire aujourd'hui, en adaptant les paroles de saint Augustin, pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis prêtre. Donc on voit très bien que Saint-Père touche là ce qui pour lui est l'essentiel. C'est le mystère de l'Eucharistie. C'est l'alliance la plus fondamentale. Et c'est pour ça, vous voyez, que la théologie, la vraie théologie, doit toujours être là pour interpréter, dans une interprétation qui soit celle de l'Église, à chaque époque, le mystère de l'Eucharistie. C'est vraiment la chose principale. C'est les deux, hein. Du côté liturgique, on garde vivantes les gestes et les paroles de Jésus et on les interprète d'une façon qui soit correcte. Donc, c'est le sacrement par excellence parce que tout repose sur l'Eucharistie. Toute l'Église repose sur l'Eucharistie. L'Église ne vit au sens fort que par et dans l'Eucharistie. Alors, je vais vous lire quelques passages, hein, du Concile de Trente, parce que je crois ça important. Si j'étais sûr que vous mettiez à piocher le Concile de Trente, je ne le lirais pas, mais je n'en suis pas absolument sûr. Alors je vous lis, pour être sûr que moi vous ayez entendu ça une fois dans votre vie et que ça vous donne envie de le lire. Il faut lire le Concile de Trente. C'est absolument nécessaire. Comme il faut lire le Concile Vatican II. Autant que possible, il faut les lire en parallèle. Et Vatican I entre deux. Alors à ce moment-là, on comprend mieux certaines choses. Alors vous savez bien que dans les conciles avant Vatican II, il y avait toujours des anathémasites. C'est-à-dire Jésus prenait le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Eh bien, il n'y a que Vatican II qui n'a pas mis d'anathémasites. C'est quand même quelque chose d'assez curieux. C'est ce qui caractérise Vatican II. Ce qui a scandalisé certains, parce qu'ils n'ont pas compris, et que nous devons comprendre pour ne pas être scandalisés. Alors, il est dit ceci, au numéro 663 et au numéro 1601 d'Ensinger, si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez les sept sacrements, si quelqu'un dit que les sacrements de la loi nouvelle n'ont pas tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il y en a plus ou moins que sept, savoir le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction, l'ordre et le mariage, ou encore que l'un de ces sept n'est pas vraiment et proprement parlé un sacrement, qu'il soit anathème. Donc, qu'il sorte. C'est ça que ça veut dire. Hein. On prend le fouet, mais qu'il sorte. L'Église maintient les sept sacrements institués par le Christ. Si quelqu'un dit que ces sept sacrements sont si égaux entre eux qu'à aucun point de vue l'un n'est plus digne que l'autre, qu'il soit anathème. L'Église maintient un ordre dans les sept. Il y a donc un premier. Il y a une clé de voûte. Et c'est l'Eucharistie qui est clé de voûte. C'est pour ça qu'aucun des autres sacrements n'est intelligible par lui-même. Seul l'Eucharistie est intelligible par lui-même. Parce qu'il est la clé de voûte. C'est donc toujours dans le mystère de l'Eucharistie que je dois comprendre, voyez, comment les gestes du Christ font le cœur du sacrement. Et ici, c'est très très net pour la scène. C'est vraiment les gestes du Christ et les paroles de Jésus qui accompagnent son geste qui sont au cœur de ce sacrement. Et l'Église va donner l'interprétation. C'est la part de l'Église, c'est la part des théologiens et de l'enseignement de l'Église, quand de fait, ces gestes sont plus compris. Alors l'Église en donne l'interprétation, en donne une certaine herméneutique. Vous avez ensuite, donc c'est tout, il faudrait lire ensemble, hein, nous ne le faisons pas, il faudrait lire ensemble toute la partie sur les sacrements. Alors, à propos du sacrement de l'Eucharistie, décret sur la très sainte Eucharistie. La présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Vous voyez que le Concile dit d'abord le point de vue de la présence. 13e session, 11 octobre 1551, pour ceux qui veulent avoir une précision de date historique. 1551. Alors, en premier lieu, le Saint Concile enseigne et professe ouvertement et sans détour que dans le vénérable sacrement de la Sainte Eucharistie, après la on fera ça au semestre d'été, une fois on aura un peu plus de temps. On pourra faire une question discuter avec lui. Il faut la préparer. Et il y a un chantier. C'est une question qu'il faut avoir un chantier là-dessus. Quand je dis avoir un chantier, c'est-à-dire avoir des questions qui se posent et on se pose à soi. Lui-même, toujours à la droite du Père dans les cieux, selon un mode d'existence qui est naturel, ou à ce que néanmoins, il nous soit, en d'autres lieux, sacramentellement présent en sa substance. Ah, tout est là. Sacramentellement. Il est présent sacramentellement. Vous voyez, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein, parce que c'est une manière de parler, c'est un mode nouveau. Et c'est ça, tout simplement, qui nous est montré. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'il faut, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est sacramentellement. On oppose, on distingue plus exactement, on distingue la présence réelle de Jésus actuel à la droite du Père et la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Deux modalités différentes de présence. C'est la même réalité substantielle, puisqu'il est présent substantiellement des deux côtés. Mais une modalité particulière. Vous voyez, comme ça demande quand même une petite intelligence théologique, ça. Les braves